le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 11 janvier. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, quatrième changement de protocole sanitaire dans l'enseignement en moins de 10 jours, annoncé hier soir par le Premier ministre. Plus besoin de passer par la case pharmacie pour se faire tester. Les détails dans un instant, Anaïs, après les autres titres.
Alors que l'épidémie au variant Omicron galope, on relance l'oxygénation à domicile pour soulager les hôpitaux. L'Afghanistan au bord de la rupture, l'ONU demande un montant record d'aide. Nous sommes à Genève. Et puis l'Algérie entre dans la danse de la Coupe d'Afrique des Nations pour le plus grand bonheur des supporters.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Une star du football, pilier de l'équipe de France, mais aussi capitaine controversé des Bleus pendant Naïsna. Il se confie pour la première fois dans une autobiographie, I Love This Game, où il raconte aussi comment il a été violé enfant. Patrice Evra sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dialoguera avec vous tout à l'heure au 01 45 24 7000.
France Inter. Faire de la dentelle face à une épidémie mouvante ou jouer avec les nerfs. Alors que les cours ont repris la semaine dernière, voici donc le troisième protocole. Journal de France 2, hier soir, le Premier ministre annonce une nouvelle simplification, surtout pour les parents qui ont du mal à faire tester leurs enfants. Sonia Princé, les changements concernent le primaire, le collège et le lycée.
Plus besoin de faire un premier test PCR ou antigénique pour les élèves cas contact, un autotest suffira, suivi de deux autres autotests, deux jours après puis quatre jours après, ça ne change pas. L'objectif est de désengorger les pharmacies et les laboratoires. Dès qu'un élève sera cas contact, l'école délivrera une attestation qui permettra aux parents d'aller en pharmacie pour obtenir gratuitement trois autotests. Le Premier ministre a promis 11 millions de kits livrés dans la semaine. Plus besoin non plus de multiplier les attestations sur l'honneur. Une seule sera nécessaire et non plus trois. Les familles devront simplement certifier par écrit que le premier autotest est négatif pour que leur enfant retourne en classe. Et puis dès qu'un cas positif sera détecté, les élèves de la classe pourront rester à l'école jusqu'à la fin de la journée pour éviter aux parents de venir les chercher en catastrophe pour les faire tester. Des mesures destinées à simplifier la vie des familles, mais rien en réponse aux enseignants et aux directeurs qui dénonçaient un protocole insuffisant. Ce nouvel allègement risque d'amplifier la colère des personnels qui sont appelés à faire grève jeudi.
2% des classes fermées, a encore précisé hier le Premier ministre. En Ile-de-France, il y aurait un taux d'absence de plus de 50% chez les enseignants et les élèves des lycées. L'opposition socialiste au Conseil régional évoque une situation sanitaire hors de contrôle. Mais hier soir, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui est venu calmer le jeu. Jean-Michel Blanquer, désavoué en direct par son Premier ministre, a d'ailleurs raillé le patron des députés LR. Jean Castex est monté au front face à cette explosion du variant Omicron. Il faut pour lui poursuivre les mesures déjà en place.
On s'adapte. Je l'ai toujours fait depuis. Nous sommes des gens pragmatiques. Vous savez, il y a tout le monde vous donne des leçons. Il faut être humble. C'est une épidémie inédite. C'est vrai que Omicron explose. On a une stratégie, je crois. Elle est claire, elle ne change pas. Laissez le pays ouvert. Mais en testant, en se vaccinant, en prenant un certain nombre de mesures d'accompagnement, et comme ça, nous nous en sortirons ensemble.
Jean Castex, hier soir sur France 2, les malades du Covid continuent d'affluer vers l'hôpital. Patients hospitalisés, soins critiques, ces indicateurs augmentent constamment depuis novembre. Mais Omicron se confirme moins dangereux. Et si les patients sont moins envoyés en réanimation, beaucoup ont besoin d'oxygène pour passer l'étape la plus rude de l'infection. Faut-il donc étendre l'oxygénation à domicile comme elle s'est pratiquée lors des premières vagues? Le ministre de la Santé y est favorable, Véronique Julia.
Déjà 21 000 patients Covid hospitalisés. Dans son hypothèse médiane, l'Institut Pasteur prévoit pour les prochains jours des pics à 2 700 nouvelles hospitalisations quotidiennes. Certains sont même encore plus pessimistes. Pour soulager l'hôpital, alors même que d'autres patients hors Covid ont également besoin de lits, l'exécutif veut équiper certains patients de masques à oxygène à domicile. Olivier Véran, hier devant les sénateurs.
Nous sommes capables de prendre en charge jusqu'à 15 000 patients avec de l'oxygène à domicile pour pouvoir libérer des lits. C'est fondamental.
Cette oxygénation à domicile n'a jamais vraiment cessé, mais de fait, on l'a réactive depuis quelques temps. Dans son hôpital près de Paris, l'infectiologue Benjamin Davido y a recours pour renvoyer des patients chez eux et libérer des lits 48 à 72 heures plus tôt.
Depuis la semaine dernière, sur les 8 lits qu'on a de Covid, on a fait rentrer 3 patients à domicile. Ça nous a fait gagner des journées d'hospitalisation précieuses.
Relativement sécure pour un retour anticipé à la maison, l'oxygénation à domicile s'avère plus délicate si on l'initie d'emblée, sans hospitalisation préalable, car on sait qu'un patient Covid peut subitement s'aggraver. Pourtant, si trop de malades arrivent aux urgences, on sera bien obligé de le faire.
Si on se retrouve dans des situations où, en fait, la plupart des patients ont besoin de débits faibles d'oxygène, ces malades d'emblée rentreront chez eux à domicile, sans passer par la case d'hospitalisation.
C'est un peu risqué, évidemment, mais le médecin précise que ce seront les patients les plus autonomes qu'on renverra ainsi chez eux, ceux qui seront en capacité à la moindre alerte de revenir très vite à l'hôpital.
Le Sénat, lui, se penche sur le pass vaccinal avec des ajustements. Passe à partir de 18 ans, durée limitée dans le temps. Le président du Sénat est l'invité d'Inter à 8h20. En Allemagne, le chancelier défend son projet d'instaurer la vaccination obligatoire. Mais dans un climat tendu outre-Rhin par les restrictions, la mesure prend du retard. À Berlin, Ludovic Piétonu.
Ce pourrait bien être la première promesse non tenue du nouveau chancelier. Olaf Scholz reste convaincu que son projet de loi sera voté d'ici le mois de mars, déclarait-il encore vendredi lors de sa dernière intervention sur le sujet. J'ai toute confiance, disait-il, dans le fait que les députés prendront des décisions intelligentes et, de mon point de vue, correctes. Mais ce projet de loi ne cesse de prendre du retard. Le premier débat parlementaire prévu en décembre n'aura pas lieu avant la fin du mois. Quant au Bundesrat, l'équivalent du Sénat, il ne pourrait se réunir qu'à partir du mois d'avril. Plus le temps passe et plus les doutes apparaissent. Lundi soir, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, n'osait plus s'engager. Interrogé par le journaliste, pouvez-vous dire que la vaccination sera bien rendue obligatoire? Il répond, je ne peux pas le dire parce que ce serait quasiment imposer quelque chose au Bundestag, ce que je ne peux pas faire. Je pense que ça va venir et j'espère que ça va venir. Au sein de la nouvelle coalition, les libéraux sont dans une très large majorité opposée au projet. Chez les Verts, beaucoup doutent et même au SPD, le parti du chancelier. Dans l'opinion, le nombre des convaincus baisse, mais l'obligation vaccinale est toujours soutenue par 2/3 des Allemands. Berlin, Ludovic Piétonu, France Inter.
Et toujours à l'étranger, une ville de 5 millions d'habitants dans le centre de la Chine, Anyang, placée à son tour en quarantaine. Le variant Omicron y est apparu à moins d'un mois des JO de Pékin.
Il est 7h07, 9 hommes jugés à partir d'aujourd'hui aux Assises de Paris.
Accusés d'avoir participé au meurtre d'une prostituée dans le bois de Boulogne à Paris il y a 3 ans, le meurtre de Vanessa Campos, une trans-péruvienne de 36 ans, avait à l'époque mis en lumière la misère et la violence subies par ces prostituées. Elles avaient même embauché des vigiles pour les protéger des agressions d'une bande. Mathilde Vinceneux.
Les amis et collègues de Vanessa Campos se souviennent de son cri ce soir-là, Todas, le code pour donner l'alerte, alors que la bande fait irruption dans le bois. Il voulait en découdre avec les gardes du corps des prostituées, puis il y a eu ces coups de feu.
Pour certaines d'entre elles, elles ont littéralement vu mourir leur ami dans leurs bras.
Quentin de Margerie est l'un des avocats des proches de la victime. Les prostituées sud-américaines redoutaient ces Égyptiens sans papier qui pillaient les clients pendant les passes.
C'était une bande qui s'était signalée à elle depuis longtemps auparavant, qui vivait comme des parasites sur leur dos. Ce sont des personnes qui agressaient leurs clients, qui les agressaient elles. Et chacune se dit aujourd'hui que ça aurait pu être n'importe laquelle d'entre elles.
Vanessa Campos a été frappée avec une matraque, un couteau, on lui a tiré dessus. Parmi les 3 accusés du meurtre, Olivier Parleani défend celui qui est désigné comme le tireur.
L'homme que nous défendons avec Léa Dordilly est mis en cause sur la foi de ses co-accusés. Et l'enjeu de ce procès sera de déterminer sur la base de quoi on peut condamner un homme quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé.
L'arme du crime retrouvée dans les bois appartenait à un policier. La bande lui avait volé dans sa voiture une semaine avant, alors qu'il se trouvait avec une prostituée.
Et l'audience doit durer 3 semaines. La vigilance rouge levée dans le sud-ouest, mais 9 départements restent en orange pour des crues ou des avalanches. À Toulouse, une résidence universitaire a été évacuée hier soir. La Garonne est sortie de son lit. On s'achemine vers un statut unique pour les 3 millions de travailleurs indépendants en France. Le projet de loi a été voté dans la soirée par les députés. Principale mesure, les indépendants seraient titulaires de 2 patrimoines, l'un professionnel, l'autre personnel, qui serait insaisissable en cas de défaillance.
Il est 7h09, les Nations Unies demandent 5 milliards de dollars pour aider l'Afghanistan.
C'est le plus gros appel jamais lancé par l'ONU pour un pays, lancé pour éviter l'implosion du pays. Jérémy Lanche, les Nations Unies demandent aux États de mettre la politique de côté pour venir en aide aux Afghans 6 mois après la prise de Kaboul par les talibans.
5 5 milliards de dollars, c'est trois fois plus que ce qui a été versé en 2001 à l'Afghanistan. Sauf que les besoins n'ont fait que grandir depuis août et la prise de pouvoir des talibans. Martin Griffiths est le secrétaire général adjoint de l'ONU.
23 millions d'Afghans ont besoin d'une aide humanitaire. C'est plus de la moitié de la population. Si nous ne faisons rien, 1 million d'enfants de moins de 5 ans vont souffrir de la famine.
L'Afghanistan vit sous perfusion de l'aide internationale depuis des dizaines d'années, une aide qui s'est brusquement tarie après la prise de pouvoir des talibans. Le Conseil de sécurité a bien voté une résolution pour permettre son acheminement sans qu'elle transite par les poches des nouveaux maîtres de Kaboul. Une stratégie à court terme seulement, prévient le haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi.
L'assistance humanitaire peut faire tourner le pays, mais ça ne peut pas durer. Si l'Afghanistan s'écroule totalement, alors nous verrons une crise migratoire bien plus importante encore.
L'ONU, qui doit composer avec le régime islamiste, tente de rassurer les bailleurs internationaux et assure que les fonds versés iront directement aux ONG présentes sur place. Une nouvelle conférence des donateurs doit avoir lieu ce printemps. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Il devait passer la main dans une semaine. Le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé cette nuit à 65 ans. Il était malade. Il avait présenté le JT sur la première chaîne en Italie avant d'entrer en politique au centre-gauche. David Sassoli était président du Parlement européen depuis 2019. C'est une première mondiale. Un cœur de porc bat désormais dans la poitrine d'un Américain. L'Université du Maryland annonce que des chirurgiens ont réussi cette greffe sur un patient de 57 ans. Le porc avait été génétiquement modifié pour éviter le rejet par l'organisme. On vous explique tout dans le journal de 8h.
Il est 7h12. La suite et la fin du journal. Anaïs Feuga.
Direction l'Algérie en ébullition ce mardi. Son équipe de foot entre en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fenech avaient remporté la CAN en 2019 et la première Coupe arabe il y a quelques semaines. Alors les supporters sont plus motivés que jamais, comme cet habitant d'Aulnay-sous-Bois près de Paris. Il vient d'atterrir au Cameroun, direction le stade, pour soutenir son équipe de cœur, Agera Mohamed.
À peine arrivé à Yaoundé, Bakar enfile son maillot aux couleurs de l'Algérie et répète l'hymne national, histoire de se mettre dans l'ambiance. Le supporter a posé un mois de congé pour suivre toute la compétition jusqu'à la finale, à laquelle il est sûr les Fenech vont participer.
En 2019, on a gagné ensemble. Là, c'est à peu près la même équipe. Et en fait, elle est sûre de ses forces. Ils savent comment il faut jouer, ils savent comment presser l'adversaire, comment, etc.
Quant au statut de favori, il est totalement assumé.
C'est vrai que quand on arrive partout à l'aéroport, les gens connaissent le foot, connaissent l'équipe d'Algérie. On leur dit, nous, c'est l'Algérie. Ils vous sortent 2-3 noms de joueurs algériens. On sent la ferveur.
Et c'est la 5e CAN à laquelle il assiste, car au-delà de son équipe de cœur, c'est cette ambiance si particulière de la Coupe africaine qui lui plaît.
Même si le niveau de l'euro est plus élevé, hein, ça c'est sûr. Mais la CAN, c'est une fierté. C'est pas comme l'euro où c'est aseptisé, les stades sont toujours nickel. Là, il se passe toujours des trucs. Il y a un peu de retard. On n'a pas entendu l'hymne national. Le vrai foot, c'est ça. C'est toujours aléatoire.
Aléatoire, sauf le pronostic du match tout à l'heure face à la Sierra Leone.
3-0, allez, pour bien commencer. Bah oui, 1-2-3, viva l'Algérie, forcément.
Un verdict à 14h, Algérie, Sierra Leone.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 2. Aujourd'hui, la jeunesse des grandes écoles, elle est prête à refuser de gros salaires pour trouver du sens.